Jean-Claude Noir, originaire du Périgord vert, vous êtes ancien technicien des eaux et forêts. Dans cet ouvrage, vous partagez votre connaissance de l'écosystème forestier, mais aussi votre passion pour l'arbre, ce végétal, cet être vivant et social. Vous interpellez également vos lecteurs sur les doutes que vous nourrissez à l'égard de la politique forestière actuelle et de ses dérives. Depuis les travaux de Suzanne Simard, popularisés par le livre « La vie secrète des arbres » de Peter Wallenben, on en sait davantage sur la communication des arbres entre eux. Pouvez-vous nous en donner quelques éléments et nous expliquer ce que vous appelez l'altruisme végétal ?
Oui, c'est un grand mot, l'altruisme végétal. Déjà que pour les humains, c'est très compliqué. Ben, disons que ces derniers travaux dont vous faites état, effectivement, nous ramènent au fait que, quelque part, la forêt, les arbres entre eux ont un lien social. Donc ça veut dire qu'ils s'aident les uns les autres. Maintenant, il est scientifiquement prouvé que les mycéliums des champignons font des interactions avec les racines des arbres et leur permettent de communiquer sous forme d'électrodes, ce sont des communications électriques un petit peu. Ils arrivent à se transmettre des informations et on a appris aussi que certains arbres, ce qu'on appelle maintenant les arbres mères, sont des arbres qui sont capables de prospecter un peu et d'avoir un certain regard sur ce qui se passe autour et de faire en sorte de diversifier et de diriger un petit peu les nutriments vers ceux qui en auraient le plus besoin, etc. Donc effectivement, il y a un lien social qui n'est pas le même que le nôtre, mais qui est vraiment un lien entre êtres vivants.
Troisième département français en termes de surface forestière, la Dordogne compte 418 000 hectares de bois, dont 99% sont privés. Pour que nous comprenions bien de quoi nous parlons, qu'appelle-t-on une forêt et en quoi est-elle différente d'une culture d'arbres ?
Une grande question. Ben, c'est ce que tout le monde se pose de plus en plus, c'est-à-dire que le terme générique de forêt, pour les gens, il représente un ensemble d'arbres. Aujourd'hui, on se rend compte quelque part que une forêt, c'est beaucoup plus complexe que ça. Une forêt, c'est un écosystème avant tout, qui est à la fois complexe et très diversifié, mais qui allie à la fois le végétal, l'animal et le minéral. C'est-à-dire que c'est une interaction entre tout ça qui fait que ça produit un milieu très particulier. Alors, quelle différence avec une plantation d'arbres ? Bah, tout simplement, une monoculture, ce sont généralement des arbres qui correspondent à un type de terrain, et ils poussent dans des conditions maximales sur un plan économique, mais il n'y a aucune diversité au sol. C'est-à-dire qu'on regarde par exemple une plantation de Douglas, on va avoir 5 ou 6 années d'aiguilles qui s'accumulent, mais on peut gratter, on n'aura pas un ver de terre. Donc on n'est pas dans une diversité, une biodiversité, on est sur une plantation d'arbres dont l'objectif est de faire de l'argent en vendant du bois. On produit du bois.
Alors en quoi le morcellement de la surface forestière périgourdine conduit inéluctablement à une mutation néfaste des forêts pour la biodiversité ? Vous avez plus ou moins répondu, mais voilà, ce morcellement que l'on connaît tout particulièrement en Dordogne.
Alors, à peu près la moitié des propriétaires forestiers possèdent moins d'un hectare de bois, donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez important en Dordogne. Alors ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage dans le sens où justement ces petites parcelles et ces petites propriétés très diffuses n'étant pas facilement et économiquement rentables, ça peut permettre de les garder en l'état sans qu'il n'y s'y passe rien. Ça c'est le côté un peu positif. Le côté négatif c'est que c'est effectivement en termes de gestion c'est désastreux parce qu'on ne peut pas entreprendre une gestion sur un demi-hectare, un trois-quarts d'hectare en sachant que l'hectare dans une génération il sera partagé entre le frère et la sœur et qu'ils auront 25 arts chacun, ben ça devient globalement très compliqué. Il faut effectivement avoir des surfaces relativement importantes pour parler de gestion forestière. Gestion c'est ce qui économiquement rend la forêt rentable.
Donc, tout au long de votre ouvrage, à un moment donné, vous parlez justement de l'aide qui peut être apportée à ces propriétaires terriens. Donc, quelles sont les conséquences actuelles et à venir pour la biodiversité, justement, des pratiques agricoles actuelles, et tout particulièrement de l'utilisation d'engins pour la gestion des coupes rases? Et j'aurais une question subsidiaire, c'est est-ce qu'on peut parler maintenant, avec cette gestion forestière, d'arbres drogués ?
Alors c'est une question qui est vaste et multiple. On va repartir à la base. Aujourd'hui, les bois sont exploités avec des grosses machines. Ces grosses machines, qu'on appelle des abatteuses, viennent essentiellement des pays nordiques. Dans les pays nordiques, sous leur latitude, les arbres poussent à une certaine cadence. C'est-à-dire qu'un Douglas ou un arbre dans les pays nordiques, à 80 ans, il a un diamètre à peu près de 40-45 cm. Sauf que dans nos latitudes à nous, les mêmes arbres ont des dimensions qui sont trois fois supérieures à ça dans la même période. Donc raison pour laquelle, au lieu de couper les arbres à 70 ou 80 ans chez eux, nous on les exploite à 25, 30, 35, 40 ans, parce qu'effectivement il faut qu'ils correspondent mécaniquement à ce que la machine est capable de faire. Donc on est en train d'adapter aujourd'hui nos arbres aux machines qui sont censées les exploiter. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, les unités de transformation, ce qu'on appelle les scieries, etc. Elles sont équipées de ce qu'on appelle des canters. Le canter, c'est l'unité de scie, le banc de scie. Pareil, ils sont adaptés pour des diamètres particuliers qui correspondent au diamètre des machines. Donc tout est fait aujourd'hui pour que l'arbre soit exploité à des diamètres et des circonférences qui sont adaptées aux machines qui vont les exploiter et plus tard les transformer. Donc on est en train d'assister à une mécanisation de la forêt. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui quasiment plus de bûcherons qui traitent à la tronçonneuse. On est avec des espèces de grosses machines qui pèsent des dizaines de tonnes. Et donc l'inconvénient, c'est effectivement, ils déstructurent les sols, ils abîment les sols, ils font des ornières pas possibles, ils travaillent par tous les temps, ils travaillent 12 heures par jour. Donc il y a une espèce de tassement des sols et des limons qui font qu'aujourd'hui, on déstructure complètement les sols. Raison pour laquelle après, quand on les a exploités, on vous dit « Ah ben oui, mais maintenant on ne peut plus rien faire ». Ben oui, pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas laissé aux arbres le temps de se régénérer naturellement, donc effectivement au sol il n'y a plus rien, donc il n'y a pas de régénération naturelle, donc il faut aller vers un nouveau reboisement, et ce nouveau reboisement il passe par quoi? Par une restructuration des sols, un retravail du sol, un défrichement, pelle mécanique ou autre, des labours, souvent des amendements parce qu'au fur et à mesure des rotations le sol s'épuise, et on est sur purement sur de la culture d'arbres.
D'où des arbres drogués qui ont...
Ben ce sont des arbres qui, voilà, ils sont poussés, ben c'est comme quand on... Moi, ça m'a toujours amusé, même quand je travaillais, quand vous faites une plantation de pins maritimes, par exemple, ils proviennent de pépinières. Ce sont des plants qui sont poussés, qui poussent artificiellement, qui poussent avec de l'azote. Et quand vous avez un semis naturel à côté, vous vous rendez compte que le semis naturel, non seulement il est plus résistant, mais qu'en plus, il pousse beaucoup plus vite. Donc, ça veut dire que quelque part, l'adaptation au milieu, elle est importante. Donc, arbre drogué, le terme est peut-être un peu fort, mais ce sont des arbres qui, effectivement, la plupart du temps, non seulement ne sont pas adaptés à ce dont on veut en faire, mais dont on sait pertinemment que la finalité sera de faire du bois d'industrie.
L'actualité du mois de juillet a été tout particulièrement marquée par les terribles inondations en Allemagne et en Belgique. Est-ce que vous pensez qu'on peut établir un lien de causalité entre ces événements et la malforestation conjuguée aussi à l'urbanisation à tout craint?
Alors, on peut extrapoler sur un plan climatique à plein de choses. C'est valable pour les inondations, mais c'est aussi valable pour les risques incendies. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'enraisiner à outrance, puisque la seule alternative qu'on nous propose aujourd'hui par rapport à ce qu'on appelle le changement climatique, c'est l'enraisinement, parce que soi-disant les pins résisteraient mieux, ça reste encore à prouver. Mais l'enraisinement, à proximité de zones constructibles, c'est une catastrophe en termes de risque incendie. On n'a qu'à voir ce qui se passe en ce moment entre Narbonne et Montpellier. On évacue les maisons. Il y a 4-5 ans, en Dordogne, il y a eu un gros incendie à Saint-Crépin-de-Richemont. Il y a 150 hectares de bois qui ont brûlé parce qu'on s'est concentré sur la protection de 2 ou 3 habitations diffuses. Donc effectivement, ça crée un problème en termes de risque incendie. Et en termes d'inondation, c'est la même chose. C'est-à-dire que dès lors qu'on déstructure un sol, les arbres retiennent l'eau. Dès lors que le sol il devient nu, les eaux ruissellent, etc. Et ben, c'est un peu ce qu'on peut craindre. Et moi, quand je vois certaines communes périphériques à Périgueux, où quand je travaillais, je leur disais qu'il ne fallait pas mettre sur des zones pentues, des zones à risque, des maisons, on me disait que ben, y a pas de problème, tout allait bien, quoi. Et bon, il y a aussi des projets sur Périgueux actuellement où je crois savoir qu'on est en train de vouloir défricher des sols quand même pas très plats. Donc à ce moment-là, il ne faut pas se plaindre après à un moment donné qu'il y a des problèmes. Oui, on déstructure des sols. Un sol forestier, je veux dire, c'est un sol qui est équilibré, il ne bouge pas. Dès lors qu'on déstructure, qu'on enlève, etc., tout ce qu'il y a au sol, il devient vraiment sujet à tout ce qui est inondation, etc., bien sûr.
Donc, est-ce qu'on doit parler d'une chronique, d'une mort annoncée de nos forêts traditionnelles, ou est-ce qu'on a encore le temps, les moyens pour y remédier?
Alors là aussi, c'est une question de... c'est une course contre la montre. Comme je dis un peu dans mon livre, on est dans une espèce de virage où si on négocie mal le virage, on va dans les décors. Donc il faut savoir conduire, donc il va falloir savoir se raisonner. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, pour être clair, en Dordogne, on a à peu près 115-120 000 hectares de taillis de châtaigniers qui font l'identité de notre territoire. Il y a un programme d'éradication des taillis châtaigniers à raison de 50 000 hectares. C'est-à-dire la moitié des taillis châtaigniers est condamnée à disparaître au motif de dépérissement. Là, on pourrait en parler encore longtemps. Effectivement, ils dépérissent, mais il y a d'autres solutions. Effectivement, à force d'aller sur ce genre de choses, on va vers une catastrophe, c'est clair. Peut-être faut-il aujourd'hui réagir différemment et se demander ce que l'on peut faire avec ce qu'on a déjà en place. On a des forêts magnifiques en Dordogne, on a 418 000 hectares de forêt. On a encore une majorité de feuillus, mais pas pour très longtemps, parce qu'à l'heure où ça va, je pense que... Voilà. Et tous les scientifiques, enfin la plupart des scientifiques qui s'occupent de forêts, s'accordent à dire que si rien n'est fait aujourd'hui dans l'état d'urgence où on est, dans deux générations, on n'aura plus aucune forêt traditionnelle en France. Donc ça veut dire qu'on va aller sur des forêts monoculturales, des forêts qui seront faites pour l'industrie, pour répondre aux meubles vite fait, pour répondre aux besoins des supermarchés qui vendent du bois préformaté, etc., etc. C'est un choix, vraiment un choix politique dans le sens noble du terme.
Il y a une responsabilité des industriels, bien sûr, de la gestion forestière, mais il y a une responsabilité de nous consommateurs, en fait, aussi.
Alors là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que quand on parle aux industriels, et d'ailleurs il y avait un chapitre là-dessus sur le fameux film qui est passé il n'y a pas longtemps, Le Temps des Forêts, où il y avait une interview d'un industriel, un des plus gros de France, qui disait « Mais moi je ne suis pas responsable parce que je fais ce que le client veut qu'on fasse ». Mais en aparté, quand vous parlez avec les industriels, ils vous répondent « Ben oui, mais nous on fait ce qui est facile de faire et on oriente le client vers ce qu'on veut qu'il achète ». Donc, on a, oui, effectivement, alors on est responsable de ce qu'on achète, effectivement, parce que maintenant, aujourd'hui, moi je me rappelle, ma génération encore, on était friands de vieux meubles de nos grands-parents et tout. Aujourd'hui, ça pourrit dans des vignes-greniers parce que personne n'en veut. Les gens veulent des meubles voilà, qu'on peut monter facilement, repeindre, recustomiser, etc., comme on dit. C'est un mode de vie, c'est un mode de société, effectivement, c'est un choix de vie. On est à un moment charnière, je ne sais pas ce qu'il en adviendra. Mais moi, j'ai pas envie de. Voilà, on est au milieu des bois, on est sous une futaie de chênes avec du charme en sous-étage. C'est magnifique. Enfin, je veux dire, il y a du lierre, du fragon partout. Moi, j'ai pas envie de me promener dans des plantations de pins maritimes, bouffées par les chenilles processionnaires, traitées au glyphosate, pour pas que ça soit sale. Moi, quand j'entends des sylviculteurs me dire, mais faut faire quelque chose, la forêt est sale. Mais c'est normal, une forêt sale. C'est ça la biodiversité. C'est ça qui fait la litière au sol. C'est pas les pesticides.
La forêt idéale de demain, si on saisit la balle au bon, et si justement, vu qu'on est à un moment charnière, on s'entreprend dans le faire, c'est quoi la forêt idéale?
C'est déjà le respect de l'existant, c'est-à-dire se dire que ce qu'on a, on peut l'utiliser. Vous voyez là, on a des chênes qui sont magnifiques autour de nous. On en a un qui est devant, là, qui doit faire à peu près 2 mètres, 2 mètres 10 de tour. C'est-à-dire, des arbres comme ça, avant de les couper, si on les laisse se régénérer, on va avoir un semis de chênes partout. Et le jour où on le fait tomber, il a sa rentabilité économique, mais sa succession est assurée. Et ça coûte quoi? Ça coûte rien si ce n'est du travail manuel et d'être conscient de ce que l'on a et après de faire des éclaircies progressives. Et dans un siècle, on aura la même chose que ce qu'on a là aujourd'hui. Mais ça, c'est pas rentable pour les entreprises. Ce qui est rentable, c'est quoi? Ce sont les gros engins, ce sont les grosses machines, ce sont les pleins de fuel qu'on fait pour... En ce moment, il y a un gros débat sur le bois énergie. Le bois énergie, c'est bien, mais quand vous voyez les espèces d'engins qu'on amène dans les bois pour broyer, qui consomment des centaines de litres à l'heure, etc., qui renvoient des fumées noires partout, et qu'on nous parle d'écologie, moi je veux bien, mais il faudra qu'on m'explique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, regardez ce qu'on a autour de nous déjà, et puis se dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça tout simplement. On peut les résineux, moi j'ai rien contre, mais il y a des classes d'âge à respecter. Des futaies mixtes, c'est bon. Deux, trois classes d'âge différentes, c'est un peu comme nous. Je veux dire, on vit comment? On vit avec nos parents, nos grands-parents, nos enfants. Voilà, on parlait tout à l'heure du côté social de la forêt. Bon, on y revient, c'est-à-dire que la forêt, ben, elle a un rôle social. Il faut qu'il y ait toutes les classes d'âge, donc plusieurs générations d'arbres, et c'est comme ça qu'elle va prospérer, les petits vont gainer les gros après vont permettre aux petits de pousser quand ils vont tomber, etc., etc. Et force est de constater que dans un même laps de temps, si on prend un siècle par exemple, une forêt comme celle qu'on a ici rapporte autant que 3 générations de pins. Alors effectivement, on le touche en une fois tous les siècles, au lieu de le toucher tous les 25-30 ans. C'est un problème de rentabilité à court terme, mais la forêt rapporte autant. Alors après, vous allez me dire, ben oui, mais ces arbres-là, ils vont partir en Chine. Ben ouais, parce que justement, les canteres et compagnie sont plus adaptés pour traiter les bois aujourd'hui. Donc on ne sait pas quoi faire de ces bois, on ne sait plus. On ne sait plus les utiliser. Par contre, on nous renvoie les planches après pour qu'on les utilise, ou les meubles.
Merci à vous, Jean-Pierre.